innovation as a key driver of its economy.
D'entrepreneurs, on parle innovation.
Investigation, más desarrollo, más innovación.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Bienvenue à tous et bonjour sur la radio Graphite. Vous êtes le bienvenu, comme je l'ai dit juste avant vous. Vous êtes dans l'émission Les Échos de l'innovation. Aujourd'hui, c'est l'émission qui décortique les questions technologiques et sociétales de notre époque. Aujourd'hui, nous allons emmener vos oreilles littéralement dans les étoiles avec nous. Il y aura deux émissions sur un sujet qu'on a choisi, qui est l'espace. La première émission, c'est celle-ci. Vous êtes donc sur l'émission qui portera sur le tourisme spatial. Émission un petit peu particulière, on va se poser la question si le tourisme spatial, ça peut représenter la clé d'une prise de conscience écologique. Pour enrichir notre réflexion, on a autour de la table une équipe d'étudiants au parcours différent, mais non moins passionnant. Et on est tous issus de l'université technologique de Compiègne, donc l'UTC, hein, pour notre petit jargon un petit peu fermé. Tout d'abord, on a Amaury, étudiant en deuxième année de tronc commun, donc qui est la prépa intégrée de l'UTC.
Bonjour à tous, merci de me recevoir.
On a également Roxane, qui est également en tronc commun, mais en première année cette fois-ci.
Bonjour à tous, merci d'être là, merci de m'écouter.
Exaucé, qui, toi, tu es un petit peu plus âgé, tu es en génie des procédés, qui est une des spécialisations proposées à l'UTC.
Bonjour à tous, et merci pour l'invitation.
Et une deuxième personne qui est également en génie des procédés, c'est Camille, qui est autour de la table.
Bonjour à tous, à tous ceux qui m'entendent, pardon. Merci de nous écouter, mais également merci à toi, Colin, et également en étudiant en génie des procédés, de présenter cette émission sur le tourisme spatial.
Je te remercie, c'est gentil. Donc merci à tous les quatre d'être venus aujourd'hui, afin qu'on puisse discuter de ce sujet qu'est le tourisme spatial autour de cette table. Cette émission, pour la présenter, hein, les écoles d'innovation, ça a lieu dans le cadre d'une matière qui, dans notre jargon, s'appelle SI1. C'est un petit peu obscur, hein, mais en gros, c'est science et débat public. L'objectif, c'est de découvrir des faits scientifiques et leur impact au niveau de la société. On a du coup de grands sujets, démocratie technique, etc., qui entrent en jeu dans notre cours. On ne va pas entrer dans le détail ici. Nous, on va parler du coup de ce qu'on fait dans le cadre de cette matière, à savoir cette émission de radio et même plusieurs autres. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir parler de tourisme spatial, hein, de technologie, d'écologie, d'éthique, etc., etc. Donc c'est parti pour les échos de l'innovation.
Merci Colin pour cette introduction fracassante. Je suis persuadée que si vous nous écoutez, vous avez tous déjà entendu parler de Neil Armstrong, hein, ce fameux premier astronaute à avoir posé le pied sur la Lune, ou encore de Thomas Pesquet, une vraie star à l'échelle nationale, hein, une vraie star chez les Français. Mais connaissez-vous Denis Tito ? Avez-vous déjà entendu parler de lui ? Qu'a-t-il bien pu faire ? Je ne suis pas sûre, en réalité, que vous le sachiez. C'est un businessman et millionnaire américain qui est en réalité le premier homme à avoir payé pour aller dans l'espace. Donc, en d'autres termes, il s'agit officiellement du premier touriste spatial. Alors, c'est à l'âge de 17 ans que Denis Tito il se découvre une véritable passion pour l'univers, hein, avec l'envoi du premier satellite artificiel de la Terre en 1957. Il en fait son métier et entre à la NASA où il travaille au calcul des trajectoires. En 1972, il quitte l'agence spatiale américaine pour monter sa propre entreprise. Entreprise qui a apparemment un vrai succès phénoménal puisqu'il se retrouve à la tête d'une fortune estimée à 200 millions de dollars. Et oui, rien que ça. Vous vous doutez bien qu'avec tout cet argent, on peut se permettre d'expérimenter un tas de choses. Évidemment, on aurait tous envie d'avoir 200 millions de dollars. Et ça, Denis Tito l'a bien compris, puisqu'il décide, non sans acharnement, on est bien d'accord, de s'envoler pour l'espace le 28 avril 1999. Il va débourser juste 10% de sa fortune, alors je dis bien juste entre guillemets, puisqu'il s'agit en réalité de 20 millions de dollars pour effectuer ce voyage à bord de la mission Soyouz TM-32, qui le mènera jusqu'à l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Une préparation de plusieurs mois lui aura donc finalement permis de partir pendant 7 jours, 22 heures et 5 minutes. À l'aube d'un nouveau millénaire, cet homme ouvre donc la voie à un tout nouveau champ des possibles, le tourisme spatial. Le rêve américain comprend alors une nouvelle perspective, celle de voyager dans l'espace.
Merci beaucoup Roxane, du coup, pour cette petite explication. Moi, j'ai une question pour vous autour de la table. Si vous aviez eu les mêmes moyens que M. Tito, en fait, est-ce que vous auriez fait cette expérience d'aller dans l'espace comme il l'a fait ? Oui, Amaury.
Alors, je pense comme beaucoup de personnes... j'aurais adoré me rendre dans l'espace, il ne faut pas mentir sur ce fait. On a toujours rêvé de vouloir vivre cette sensation de flotter dans un engin spatial à plusieurs millions de dollars. Et je pense que c'est comme un rêve de gosse qui pourrait se réaliser. Cependant, je pense qu'on pourrait se demander en tout cas que 20 millions de dollars, est-ce que ça ne pourrait pas être investi ailleurs, notamment dans des projets environnementaux ou humanitaires qui pourrait aider vraiment l'humanité, au lieu de juste un caprice d'enfant que représente le fait de partir dans l'espace.
Alors moi, je suis d'accord avec toi, Amaury, sur le fait que c'est vraiment un rêve quand on était gosse ou même actuellement. Mais je pense qu'à cette époque-là, on n'avait pas assez de recul sur la technologie. Et je pense qu'il y avait des réels dangers liés tout simplement au tourisme spatial. De par des accidents ou tout simplement mourir par explosion.
Personnellement, je pense que je ne l'aurais pas fait, car j'estime que sur Terre, nous avons des endroits aussi merveilleux et qui peuvent susciter les mêmes sensations émotionnelles à moindre coût plutôt que de se rendre dans l'espace.
Alors c'est vrai que moi je vous rejoins là-dessus, c'est vraiment un vrai rêve de gosse, donc oui Colin, je répondrai oui à ta question au premier abord. J'ai envie de voyager dans l'espace, mais en fait quand j'y pense à peine plus, bah, je ne sais pas si j'oserais, parce que je me dis qu'il y a sûrement une sorte d'immense solitude quand on est en haut. Enfin, ouais, ça doit faire peur de se retrouver si loin de tout d'un coup, de se rendre compte que finalement on est tout petit et qu'il n'y a rien autour, enfin rien, vous m'aurez compris. On en connaît à la fois beaucoup plus qu'avant sur l'espace, mais tellement peu finalement que, ouais, je sais pas, un peu de peur, je pense.
Alors, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, Camille. En effet, je pense que ce voyage, ça peut représenter un certain danger parce que, bon, quand on est à l'intérieur d'un engin spatial, il y a quelques centimètres d'acier qui nous sépare du vide intersidéral. Et j'aimerais aussi parler du fait qu'à l'époque où Denis Tito s'est rendu dans l'espace, c'est-à-dire en 1999 si je ne me trompe pas, c'était une époque où les avancées technologiques dans le spatial n'étaient pas très efficaces. Enfin, elles étaient efficaces, mais...
Ça comportait des risques, c'est ça que tu veux dire ?
Oui, c'est ça. Ça comportait un certain nombre de risques. Par exemple, j'aimerais citer l'accident Challenger qui a eu lieu le 28 janvier 1986. Donc, c'est une fusée américaine qui a explosé 73 secondes après son décollage et qui a entraîné la mort des 7 membres d'équipage. Donc oui, en effet, ce voyage comporte de gros risques.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a aussi, quand on y pense, le fait qu'on débourse énormément d'argent pour réaliser ces voyages. Et quand on pense au fait qu'il y ait, par exemple, que même rien que sur Terre, comme tu le disais, exaucé tout à l'heure, des magnifiques endroits qui n'ont pas été explorés ou qu'on n'a pas vus, hein, je pense que personne n'a jamais vu toute la Terre, toute la beauté qu'elle contient. Donc pourquoi aller dans l'espace ? Ou alors pourquoi investir du temps et de l'argent alors que 5% des océans sont explorés ou 25% cartographiés, mais... Ouais, je sais pas pourquoi. C'est une bonne question.
Je vais donner un peu mon avis aussi. J'ai posé la question, donc je vais essayer quand même de vous rebondir un peu dessus. Moi, je suis très passionné par l'espace, personnellement. Hein, si je donne juste mon avis personnel, je connais beaucoup de petits détails, des petites anecdotes, des petits. Je peux peut-être même en partager pendant l'émission. Et on a en fait, moi j'ai vraiment cette envie en tout cas de pouvoir découvrir cette expérience qui est de voyager dans l'espace. Mais malgré tout, si on se remet dans le contexte de l'époque, comme disait Amaury, c'est très risqué à l'époque de voyager dans l'espace. Il y avait énormément d'accidents liés au voyage spatial. Et c'était pas la même accessibilité qu'aujourd'hui au voyage à l'espace. Donc ça dépend. Les mêmes moyens aujourd'hui ou à l'époque. Aujourd'hui peut-être, à l'époque, plus hésitant disons. Mais moi j'ai aussi une autre question. C'est si depuis, du coup justement, je disais que c'est peut-être moins risqué aujourd'hui, est-ce que depuis Denis Tito on a évolué dans le tourisme spatial ?
Alors oui, évidemment, entre 2001 et 2009, il faut savoir que la compagnie spatiale de l'État russe a permis à 7 personnes non professionnelles, des touristes, de décoller et de voyager dans l'espace pour leur plaisir, hein, et pas non pour un travail, comme le font actuellement les astronautes, et de réaliser un vol orbital. Ils ont eux aussi quitté la Terre dans la capsule Soyouz. Le prix était de 20 à 25 millions de dollars par voyage, hein, donc évidemment toujours des sommes astronomiques. La prestation étant négociée par une compagnie américaine, Space Adventure, avec Roscosmos et la compagnie spatiale de l'État russe et une autre compagnie russe de vaisseaux spatiaux. Ces voyages se sont arrêtés en 2010 pour une raison assez simple, hein, mais qu'on ne pense pas forcément, qui est l'augmentation du nombre des membres de l'équipage de l'ISS. Il n'y avait plus de place pour emmener des touristes payants, hein, tout simplement. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il existe deux types de touristes spatial ? Le tourisme suborbital et le tourisme orbital. Le suborbital, comme ceux de Blue Origin, permettent d'aller au-dessus de la ligne de Kármán à environ 100 km d'altitude pour quelques minutes d'apesanteur. Le vol orbital, lui, comme proposé par SpaceX, est beaucoup plus ambitieux et énergivore, permettant de rester plusieurs jours en orbite. Depuis 2020, l'agence spatiale américaine développe des vaisseaux pour des vols habités avec des entreprises privées. L'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, a conçu la fusée SpaceX pour véhiculer des touristes vers de futurs hôtels spatiaux qui n'ont bien sûr pas encore vu le jour, mais qui sont des projets assez ambitieux et qui se réaliseront sûrement un jour. Cette fusée a déjà même conduit des astronautes vers la station spatiale. Depuis juillet 2021, c'est 37 spatiotouristes qui ont voyagé avec la société de Jeff Bezos, Blue Origin. Quant aux touristes des autres compagnies, leur nombre n'est pas très précis, mais devrait quand même tourner aux alentours d'une vingtaine de personnes depuis le lancement de ces missions touristiques. Les avancées en matière de tourisme spatial ne cessent donc de croître. En effet, récemment, et quand je vous dis récemment, c'est vraiment récemment puisqu'il s'agit du 15 septembre dernier, les 4 passagers de la mission Polaris Dawn de SpaceX sont de retour sur Terre après avoir marqué un nouveau tournant dans l'histoire du tourisme spatial. Ces 4 passagers, qualifiés d'astronautes privés, donc en fait il s'agit de personnes qui n'ont pas suivi une formation ordinaire d'astronautes et ne sont donc pas reconnues comme telles par les grandes institutions, ils sont les premiers touristes spatiaux du coup à avoir réalisé une sortie extra-véhiculaire dans l'immensité spatiale. Selon Ilan Kelman, qui est un enseignant et chercheur à l'Université de Londres, il s'agit d'une avancée majeure pour les humains, mais cela comporte aussi des risques incroyables, car une grande partie de cette technologie de SpaceX est nouvelle et n'a pas encore été testée entièrement dans l'espace, sans oublier que ces personnes ont donc un parcours très différent des astronautes classiques, nous rappelle-t-il à la fin de son interview pour TV5 Monde. Finalement, aujourd'hui, si vous possédez entre 230 000 et 53 millions d'euros, vous pouvez envisager de voyager dans l'espace. Selon le CNES, il faut savoir que 50 000 personnes par an se diraient prêtes à dépenser cette somme pour réaliser un rêve qui, pour beaucoup, est inimaginable.
Sacrée fourchette de prix, hein, 230 000, 53 millions. Mais c'est vrai que c'est un rêve qui paraît quand même assez lointain, voilà, de pouvoir voyager dans l'espace, parce qu'on en a envie, mais c'est comme gagner l'auto, quoi. C'est un petit peu inaccessible. Mais bon, ça peut expliquer quand même les 50 000 personnes qui sont prêtes à débourser cet argent quand même pour découvrir ce que c'est un voyage dans l'espace, quoi.
Alors, il faut reconnaître que les étoiles fascinent l'humanité depuis la nuit des temps. Depuis toujours, l'homme lève les yeux vers le ciel et rêve d'explorer cet infini qui le dépasse, comme on l'a dit dans la précédente discussion. C'est comme un rêve de gosse qui pourrait se réaliser. Et il y a quelques années encore, pouvoir s'y rendre n'était réservé qu'aux astronautes triés sur le volet, ayant suivi un entraînement intensif et possédant une capacité d'adaptation exceptionnelle. Donc ça me fait repenser aux aux différentes interviews de Thomas Pesquet que j'avais pu regarder à l'époque où il suivait les différents tests afin d'être sélectionné par l'Agence spatiale européenne. Et cela montrait la difficulté des tests qu'il avait dû subir et à quel point devenir astronaute il y a quelques années, c'était une chose inatteignable pour beaucoup de personnes.
Ouais, si je peux me permettre de t'interrompre, Amaury, j'ai moi-même, il y a quelques années, été à la Cité de l'Espace à Toulouse, alors je ne sais pas si vous connaissez, et à l'époque où j'y suis allée, il y avait une sorte d'attraction, où en fait on était une heure avec plein de gens dans une salle assis sur des chaises, et il y avait divers tests qui nous étaient proposés, et qui étaient des véritables tests proposés aux astronautes, et je me souviens notamment d'un qui m'a marqué, c'est au début de l'heure, on est tous arrivés, donc on s'installe, et il y avait une suite de chiffres écrits dans une certaine couleur, affichée sur un mur, et on n'y fait pas forcément attention. Puis après, le test commence, on nous explique les choses, tout ça. Et à la fin du test, on nous a demandé de redire dans l'ordre cette suite de chiffres et avec les couleurs correspondantes. Et j'ai trouvé ça, je me dis, mais il y a vraiment des gens qui arrivent à se souvenir de ça. C'est quand même impressionnant. Désolée pour cette petite anecdote.
Oui, c'est exactement ça. Merci Roxane pour cette intervention. Donc il est maintenant clair et net que le tourisme spatial devient une réalité. Donc il y a quelques entreprises dans le monde qui se sont emparées de cette nouvelle opportunité pour proposer des vols de courte et longue durée dans les étoiles. C'est le cas du coup de Blue Origin, l'entreprise du milliardaire Jeff Bezos, qui propose des vols suborbitaux d'environ 10 minutes et pour la modique somme de $250,000. Oui, cela représente un certain budget, mais pour certaines personnes fortunées, ce nouveau hobby est devenu accessible et permet de se démarquer. Et honnêtement, on peut comprendre, on a toujours rêvé flotter en apesanteur dans un engin à plusieurs centaines de millions de dollars. Cela dit, il est quand même important de garder en tête que ce tourisme spatial, malgré sa magie, reste réservé aux plus riches. 250 000 $, ce n'est pas rien, cela représente tout de même un investissement conséquent. Et ce privilège s'accompagne aussi de ce qu'on pourrait appeler des coûts cachés. Bien sûr, il y a le coût financier qui est immense, mais il ne faut pas oublier un autre prix à payer, celui pour l'environnement. En effet, chaque vol spatial consomme une quantité phénoménale de carburant et laisse derrière lui une empreinte carbone énorme, ce qui est loin d'être négligeable dans le contexte actuel où notre environnement est victime d'un changement climatique. Alors, pourquoi je m'entends plus ? J'aimerais bien avoir votre avis à froid concernant l'écologie. Savez-vous ce que représente le décollage d'une fusée ?
Ah, moi, je pense que le décollage d'une fusée, ça doit représenter au moins une centaine d'avions, voire plus. Surtout que je pense que malgré que ce soit assez... qu'on ait, on va dire, certaines... recherche sur le tourisme spatial, etc., les fusées. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé de moyens. Après, c'est mon avis, je ne sais pas actuellement, je n'ai pas fait de recherche dessus. Mais je pense qu'on n'a pas encore de moyens de recycler des carcasses d'avions.
C'est vrai que moi, personnellement, alors ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, mais oui, je pense que le décollage d'une fusée a un impact certain sur notre environnement qui doit être énorme. Mais je me dis que comparé aux 38 millions d'avions qui volent dans le ciel par an, est-ce que les décollages du peu de fusées qu'il doit y avoir tout de même par an, est-ce que ça a réellement un impact? Je ne suis pas si sûre que ça, je ne sais pas du tout.
Je suis d'accord avec toi sur le nombre de fusées qui décollent par an, il n'y en a pas énormément, surtout qu'ils font de leur mieux pour les faire décoller depuis l'équateur, pour que ça coûte le moins de kérosène possible, que ce soit le moins énergivore. Mais malgré tout, quand je dis kérosène, c'est quelque chose qui, à mes yeux en tout cas, pourrait coûter énormément en impact écologique, etc., sur la fusée en elle-même qui décolle, quoi. Après, à voir, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je ne sais pas si quelqu'un a un avis aussi sur la question.
Alors, j'aimerais compléter du coup vos interventions. Donc, merci beaucoup à chacun d'avoir donné son avis. Donc, il est clair et net qu'en tant que futur ingénieur, je ne peux pas nier qu'une fusée représente une prouesse technologique. Mais du coup, derrière l'aluminium, le titane ou encore l'acier inoxydable qui compose la carlingue d'une fusée se cache une véritable bombe atomique de carbone. Nous pouvons prendre l'exemple de l'aluminium, donc, qui est extrait de la bauxite. Cette extraction provoque de la déforestation et produit de nombreux déchets toxiques, sans parler des tonnes d'énergie nécessaires à sa transformation. On peut également parler des fibres de carbone qui dérivent du pétrole et qui sont quasiment impossibles à recycler. Résultat, des déchets qui s'accumulent notamment dans les zones où les morceaux de fusée retombent sur Terre. Par exemple dans la mer où à une certaine époque les parties des fusées comme les réacteurs tombaient directement dans la mer et n'étaient pas récupérées par les agences spatiales de certains états, donc ce qui entraîne à la pollution de la biodiversité marine. Bien qu'évidemment de nos jours de nombreuses compagnies ont développé des lanceurs réutilisables tels que SpaceX, donc cela permet en quelque sorte de limiter cet impact. Maintenant, nous pouvons parler aussi du carburant. C'est le kérosène qui est le plus souvent utilisé. Donc, les chiffres sont quant à eux très affolants concernant l'utilisation de ce carburant. Nous avons le 20 avril 2023 le décollage de la fusée Starship de SpaceX, qui est la plus grande fusée de son histoire. Et selon les déclarations faites par l'entreprise à la Federal Aviation Administration, chaque décollage de sa fusée émettrait environ 2683 tonnes de CO2. Ainsi que 1,7 tonnes de protoxyde d'azote, un gaz 298 fois plus nocif que le CO2. À titre de comparaison, cela équivaut au vol simultané et non-stop d'un Boeing 737 durant 15 jours. Et oui, je dis bien pendant 15 jours, c'est phénoménal. Nous avons également l'avis de Héloïse Marais, professeure de géographie physique à l'Université de Londres, qui nous informe qu'un vol de fusée émettrait en moyenne entre 200 et 300 tonnes de dioxyde de carbone pour 4 passagers, soit environ 50 à 75 tonnes de CO2 par personne. Comparé aux 3 tonnes par passager pour un vol long courrier, la différence est flagrante. Chaque décollage de fusée émet environ 16 fois plus de CO2 qu'un vol d'avion long courrier. Mais il n'y a pas que le CO2. Les lancements de fusées libèrent aussi des suies, ces particules de carbone noir qui s'accumulent dans les couches hautes de l'atmosphère et contribuent à leur réchauffement. On estime qu'avec l'augmentation des vols spatiaux d'ici 2030, ces suies pourraient réchauffer l'atmosphère de plusieurs degrés, ce qui aurait des conséquences potentiellement dramatiques sur notre environnement. Cela dit, le nombre de décollages reste faible par rapport à l'aviation. Nous avons environ en 2023 100 000 vols d'avions par jour dans le monde, alors que seulement 223 décollages de fusées ont pu être comptabilisés sur l'ensemble de l'année 2023. Donc même si l'impact écologique du tourisme spatial est important par vol, il reste pour l'instant marginal à l'échelle mondiale.
Merci Amaury pour ces superbes nouvelles sur l'impact du tourisme spatial, sur l'écologie, sur... On va tous mourir, c'est génial. Pour changer un peu de ce climat écologique qui peut faire paniquer certains, c'est pas rien. Petit intermède, je vais vous proposer la météo sur une autre planète. Sachez que si vous vous trouvez sur la Lune actuellement, ce n'est pas une planète, c'est un satellite naturel, mais on va faire... comme si c'était une planète. La Lune n'a pas d'atmosphère, car ce n'est pas une planète. Donc, sans atmosphère, déjà, impossible de respirer. En l'absence de cette couche de gaz protectrice qu'est l'atmosphère, la température variera entre 120 degrés le jour et moins 170 degrés la nuit. Donc, prévoyez soit aucun vêtement, soit tous les vêtements que vous avez dans votre garde-robe, parce qu'il faudra y survivre. Si vous allez sur Saturne, sachez que les vents soufflent à 1800 km/h, il s'agirait de se tenir debout. C'est une sphère de fer et de nickel d'une taille de 2 Terres en équivalence. Et la température avoisinera les 11 700 degrés. Donc prévoyez rien du tout, vous mourrez. C'est pour être honnête avec vous. Du fait de l'inclinaison de son axe, c'est 27 degrés son axe de rotation. Saturne, ça possède 7 saisons. 4 saisons, toujours les mêmes, de cette année chacune. Et donc il va falloir vous habituer à ce climat de 11 700 degrés parce que ça ne change pas tout de suite les saisons, hein, c'est tous les 7 ans.
Merci Colin pour cette météo, je sais où est-ce que je vais aller passer mes prochaines vacances.
je te remercie, hein. Moi, j'offre des paysages paradisiaques, hein, disons. Sinon, je peux vous donner aussi quelques infos un petit peu sur l'espace en général. Sachez que le premier être vivant à être allé dans l'espace, il s'agit de Laika, une petite chienne sous l'URSS, qui a voyagé dans la fusée Sputnik 2 le 3 novembre 1957. Le premier être humain était également russe, Yuri Gagarin, le 12 avril 1961, premier homme dans l'espace. Et bien entendu, vous connaissez la mission du 21 juillet 69 avec Buzz Aldrin et Neil Armstrong qui ont pu rejoindre la Lune pour la première fois et donc qui ont marché sur la Lune, les premiers hommes sur la Lune. Hein. Donc mission très connue. Ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est l'histoire de Michael Collins qui lui était dans le module de commande et ce module de commande a fait le tour en fait, de la Lune. Et c'est ce qu'on a appelé pendant un moment l'homme le plus seul du monde, parce que c'est une personne qui n'a pas vu la Terre pendant cette rotation autour de la Lune. Et donc, voir la Terre pendant tout ce moment, et donc il était appelé l'homme le plus seul du monde, voilà, tout simplement. On va vous mettre maintenant, je vous rappelle que vous êtes bien sur Graphite, hein, si vous venez de nous rejoindre, on est dans l'émission Les Échos de l'Innovation. Donc c'est une émission qui décortique les sujets scientifiques, sociétaux. Et je vais vous mettre tout de suite un audio de Thomas Pesquet qui vous décrit une situation qui le touche tout particulièrement.
Fragile, environnement hyper hostile, ressources limitées, il faut bien s'entendre et bien s'en occuper pour que le voyage dure le plus longtemps possible. Ben, la Terre, c'est exactement pareil, sauf qu'on n'a pas compris. C'est bête qu'il faille aller dans l'espace pour le comprendre, mais quand on a compris ça, il y a des choses qui paraissent évidentes. Donc, une fois qu'on a compris ça, on sait qu'il faut tout faire pour la protéger. D'un côté, moi, j'ai ressenti de l'inquiétude, mais d'un autre côté, moi, ça m'a aussi prouvé que c'est un peu naïf, mais que l'être humain est capable de faire des choses absolument incroyables.
Merci Thomas pour cette magnifique intervention. Mais connaissez-vous l'overview effect, alias l'effet de surplomb en français? Ou bien la célèbre photographie nommée le Blue Marble, avec notre Terre prise depuis l'espace, en 1972 par l'équipage d'Apollo 17. Cet effet, ainsi que la photo, représente le fait d'avoir un choc psychologique se produisant en regardant la Terre de l'espace, ce qui n'arrive, on va se le dire, pas forcément à tout le monde. D'après l'homme le plus connu dans le monde spatial, après bien entendu Neil Armstrong, Thomas Pesquet, que vous avez j'espère pour votre culture générale, normalement reconnu au son de la voix, a notifié dans le reportage que vous venez d'entendre que c'était bête de devoir aller dans l'espace pour le comprendre. Cet astronaute, connu pour ses nombreux exploits spatiaux, est également un homme respectueux de l'environnement, ainsi que de la Terre bien entendu. Fait méconnu je pense de nombreux d'entre vous, mais il a été nommé en 2016 ambassadeur de l'UNICEF pour le changement climatique ainsi que l'accès à l'eau potable, mais aussi cette année ambassadeur de bonne volonté de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Et oui, même avec un programme chargé, il arrive quand même à prendre le temps de s'occuper de notre planète. Il explique également dans le reportage que contempler la planète avec un recul de 400 km, qui est énorme pour nous bien entendu, ça aide à réaliser la place de celle-ci dans l'espace, c'est-à-dire une boule de vie fragile et toute petite. De plus, du haut de l'espace, l'impact de l'homme est encore plus inquiétant, avec comme exemple, la pollution de l'air, la sécheresse dans certaines régions, incendies et j'en passe. Pesquet serait entré en désaccord avec le milliardaire Elon Musk, que tout le monde connaît, avec ses idées loufoques. L'ultra-riche souhaiterait coloniser Mars, un peu comme dans le film « Seul sur Mars » de Ridley Scott. Selon lui, cela représenterait une mission nécessaire pour l'humanité, ou plutôt une mission pour faire gonfler son ego afin d'être l'homme ayant colonisé Mars en premier. Cependant, pour Pesquet, cela symboliserait une part de dénoiement, de responsabilité et donc de n'avoir rien fait pour sauver notre planète. J'ai donc une question pour vous autour de la table. Pensez-vous qu'on puisse changer la mentalité des riches pour essayer de leur donner une prise de conscience sur l'ampleur du tourisme spatial et ses impacts?
Alors, je pense qu'il est plutôt difficile de faire changer à ces ultra-riches d'avis, car le tourisme spatial est de nos jours un moyen de se démarquer et d'afficher au monde entier sa réussite. Donc, je pense que c'est un certain statut, c'est une certaine manière de montrer son statut social au monde entier. Surtout que pour la plupart, ces personnes très fortunées possèdent des industries ultra-polluantes grâce auxquelles ils ont pu faire leur fortune. Je peux prendre par exemple comme exemple Jeff Bezos, l'ancien PDG d'Amazon, qui s'est rendu dans l'espace en 2021, si je ne me trompe pas, grâce à sa société Blue Origin. Donc Amazon, qui est une industrie très polluante, on le connaît, avec des millions de colis envoyés chaque jour, avec des centaines de milliers de tonnes de cartons utilisés, du plastique, etc. Donc je pense qu'il est plutôt difficile de leur faire changer d'avis compte tenu de leur gagne-pain, on va dire.
Ce qui est dommage, honnêtement, je pense, Amaury, parce que oui, je te rejoins avec toi, mais on sait que quand on voit des personnalités publiques, l'impact qu'elles peuvent avoir sur la population, hein, que ce soit des politiques, oui, mais aussi quand on pense aux acteurs ou aux chanteurs, hein, par exemple, si on reprend l'exemple des dernières élections qui ont eu lieu aux États-Unis, hein, Taylor Swift, une superstar américaine, qui, quand elle a annoncé publiquement en septembre aller voter et donner son soutien à la candidate démocrate Kamala Harris, cela a attiré 400 millions de visiteurs sur le site d'inscription pour aller voter en seulement 24 heures. Et des petites études ont montré que c'était très timé, donc c'était sûrement, il y a énormément de chances que c'était en rapport avec la publication donc, de Taylor Swift. Mais oui, c'est vrai qu'on sait donc que ces personnes pourraient avoir un impact réellement important si on les écoutait.
Je te rejoins un petit peu là-dessus, sans parler même de sensibilisation au public. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, de par la réalisation des enjeux écologiques, qui même s'ils sont ultra riches, ont une éthique qui fait qu'ils puissent quand même réagir sur le sujet. Quoi. Il n'y a pas forcément que des grands méchants ultra riches dans le monde où on se dirait ils vont s'en ficher de ce qui se passe autour d'eux. Ils ont aussi pour certains une morale, etc., qui fait qu'ils vont pouvoir réagir sur le sujet.
Je pense vraiment qu'il faut une sensibilisation à ce sujet, car nous n'avons qu'une seule planète qu'on doit vraiment préserver, et c'est notre dénominateur commun.
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Exaucé. Je pense que la prise de conscience chez les ultra-riches comme Elon Musk pourrait passer par de l'éducation ou encore de la sensibilisation. Le fait de créer une pression sociale et médiatique également les forcerait peut-être, je dis bien peut-être, à changer de mentalité un jour. Il ne faut pas oublier qu'ils investissent des sommes inimaginables dans le tourisme spatial, comme on l'a dit précédemment. De plus, leur soif de marquer l'histoire spatiale représente un frein à la prise de conscience, malheureusement. Surtout que certains riches, comme Bezos ou Musk, considèrent l'exploitation spatiale comme une solution aux problèmes actuels de notre Terre, comme par exemple la surpopulation, qui pourrait se résoudre, entre guillemets pour eux, par envoyer des individus dans l'espace. Personnellement, je pense qu'ils ont trop regardé Passenger ou V100. Certains ingénieurs et entrepreneurs engagés dans l'écologie et l'espace estiment que l'overview effect peut être un accélérateur de conscience, mais malheureusement au détriment d'argent et de temps. De nombreux scientifiques essayent quand même de trouver des solutions pour accélérer ce fameux temps de prise de conscience, comme Jean-Pierre Gou. Il a donc essayé de trouver une option plus écologique, mais produisant le même effet, One Home. One Home, c'est une ONG proposant des expériences virtuelles immersives à partir de vidéos de notre chère et tendre planète. J'ai deux petites questions qui, j'espère, vous feront prendre conscience, chers auditeurs, auditrices. Selon vous, est-ce une aventure fascinante ou une menace écologique de plus pour notre planète? Mais également, dans notre contexte actuel, est-il vraiment nécessaire d'utiliser des ressources pour cette aventure réservée à une minorité remplie d'ego et de soif de pouvoir?
Voilà, cette fois-ci un petit peu différent. On vous laisse réfléchir sur ces questions-là de votre côté. Pour vous laisser réfléchir, je vais vous mettre un petit temps où vous ayez la tête dans les étoiles, que vous allez pouvoir penser de votre côté. Je vais d'ailleurs vous introduire un peu cet intermède avec une anecdote qui s'accompagne de ce petit intermède qui va être en musique. La première musique qui a été interprétée dans l'espace, pas jouée, que ce soit une radio ou quoi que ce soit dans l'espace, même si ça ne fonctionnera pas la radio dans l'espace, c'est Space Oddity de David Bowie, qui a été jouée par un astronaute canadien dans l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, Chris Hadfield, qui a joué du coup cette musique Space Oddity de David Bowie, à la guitare, dans l'ISS, en apesanteur. Et je vous propose en fait d'écouter simplement cette version de Space Oddity, là maintenant tout de suite, sur Graphite.
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Voilà, c'était Space Oddity, joué par Chris Hadfield, donc astronaute canadien. D'ailleurs, dernière anecdote à propos de cette chanson, David Bowie, avant de mourir, a dit que c'était pour lui la meilleure interprétation de sa musique qui ait jamais existé. En même temps, jouer Space Oddity dans l'espace, ça apporte une petite touche en plus qu'on apprécie. Si vous nous rejoignez juste maintenant, vous êtes toujours sur Graphite, vous écoutez les Échos de l'innovation. C'est une émission où on parle de science, de société, et jusque-là, on a parlé du tourisme spatial, on a défini que c'était quelque chose qu'on pourrait éventuellement vouloir faire, que ça coûtait énormément d'argent, que c'était un impact écologique tout de même de voyager dans l'espace, hein, on se doute, et que ça pouvait provoquer une prise de conscience de par ce qu'on appelle l'overview effect, hein, de se rendre compte de la vulnérabilité de notre planète. Est-ce que toi, Exocet, tu as une idée s'il y a des limites à cette prise de conscience qu'on pourrait développer ?
Merci, cher Colin, pour la parole accordée. Bien que le tourisme spatial puisse, dans une certaine mesure, permettre de prendre conscience sur la nécessité de préserver la planète, cependant, cette méthode de prise de conscience écologique s'avère inefficace, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause de son accessibilité extrêmement restreinte. En effet, selon les rapports du Centre national d'études spatiales, seuls les ultra-riches peuvent se permettre ces voyages, qui coûtent entre 230 000 et 53 millions d'euros. Cela signifie que l'expérience qui pourrait inciter à une prise de conscience écologique ne concerne qu'un groupuscule d'individus fortunés. Cette restriction empêche une large diffusion de la prise de conscience écologique qui pourrait en découler. Deuxièmement, sur la sincérité de cette prise de conscience. Malgré l'overview effect évoqué par ces touristes spatiaux, force est de constater que l'expérience ne semble pas entraîner des changements concrets pour ces individus ultra riches.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai justement un audio de Jeff Bezos, alors ça va être en anglais, sur quand il est revenu d'une mission dans l'espace, d'un voyage, un tourisme spatial, et voilà ce qu'il en pensait. Donc je vous laisse écouter ça.
You know, the most profound piece of it for me was looking out at the Earth and looking at the Earth's atmosphere. Every astronaut, everybody who's been up into space, they say this, that it changes them, and they look at it and they're kind of amazed and awestruck by the Earth and its beauty, but also by its fragility. And I can vouch for that. When I look out, you know, when we're sitting in this room and when we're driving our cars and we're moving around the planet in our normal ways, the atmosphere is so gigantic. You know, we're these tiny little things, and the planet, the atmosphere is so big. But when you get up above it, what you see is it's actually incredibly thin. It's this tiny little fragile thing. And as we move about the planet, we're damaging it. And, you know, so that is, that's a very profound. It's one thing to recognize that intellectually. It's another thing to actually see with your own eyes how fragile it really is. And that was amazing.
Merci, Colin. C'était là le discours de Jeff Bezos après son vol dans l'espace au bord du vaisseau New Shepard de sa société Blue Origin le 20 juillet 2021. Il a prononcé un discours axé sur l'importance de la préservation de l'environnement. Dans son discours, Bezos affirme que voir la planète depuis l'espace lui avait donné une nouvelle appréciation de sa fragilité. Il a même déclaré que l'expérience avait renforcé sa détermination à soutenir des initiatives environnementales. Il a décrit la Terre comme un joyau rare et fragile qui doit être protégé. Mais aussi, il a insisté sur le fait que l'humanité doit intensifier ses efforts pour prévenir la dégradation de l'environnement. Ses propos ont fait jaser encre et salive au sein de l'opinion publique du fait que le milliardaire fait l'ironie de prôner la protection de l'environnement tout en dépensant des sommes astronomiques pour des vols spatiaux. Enfin, il y a contradiction entre tourisme spatial et conscience écologique. Car par définition, la conscience écologique est le fait que l'humanité reconnaît l'importance de l'environnement et la nécessité de le protéger. Cette prise de conscience, normalement, doit pousser à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement, tels que la réduction de la consommation énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le soutien à des politiques de développement durable. Le fait même que ces vols contribuent eux-mêmes au réchauffement climatique, envoient un message contradictoire. Comment justifier qu'un vol qui émet des tonnes de dioxyde de carbone puisse être considéré comme un outil de prise de conscience écologique?
Cette contradiction affaiblit la validité de l'argument selon lequel le tourisme spatial peut véritablement encourager à un changement des perspectives en faveur de l'écologie. Pour tout dire, si nous voulons une vraie prise de conscience collective, nous devons favoriser des solutions plus inclusives et durables, telles que des expériences immersives proposées par des ONG comme One Home, qui peuvent virtuellement recréer l'overview effect sans toutefois impacter négativement l'environnement.
Merci Exaucé pour ces informations à propos des éventuelles limites à cette prise de conscience que peut apporter le tourisme spatial. Pour conclure un peu généralement notre sujet du tourisme spatial, on peut dire qu'après tout ça, le tourisme spatial, c'est à la fois comment dire, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, mais pas que le tourisme spatial, aussi l'ONG One Home dont tu parlais. Ça peut être important de justement voyager dans l'espace ou simuler ce voyage afin de se rendre compte de ce que c'est. Mais d'un autre côté, il y a des limites à ça, qui en a accès, etc. La conquête spatiale, c'est pas accessible à tout le monde, c'est ce qu'on en a un peu tiré. Mais malgré tout, nos camarades dans la deuxième mission pourraient exploiter la conquête spatiale sous un axe différent, en parlant éventuellement à l'échelle de pays qui pourraient exploiter l'espace. En attendant, nous vous remercions, nous, et, enfin moi et mon équipe et moi plus exactement, pour avoir écouté cette émission Les Écoles d'Innovation. Un dernier petit tour de table pour que tout le monde puisse dire au revoir, si vous voulez.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et bonne journée.
Voilà, vous avez eu leur petit message. Ils sont ravis de vous avoir entendu. On vous rappelle qu'on était des étudiants de l'UTC, donc on est néophytes, hein, on découvre ce sujet qu'est la radio, donc soyez gentils, on a fait peut-être quelques petits problèmes au niveau de la réalisation de tout ça, mais on a donné ce qu'on pensait, on a donné notre cœur dans l'émission. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Vous étiez bien sur Graphite en écoutant Les Échos de l'Innovation.